Dans ce nouvel épisode d'Extra, on a voulu s'attaquer à un mot qu'on croyait relégué dans l'histoire. Mais voici qu'on parle d'islamo-fascisme, de gaucho-fascisme et même d'antifa qui seraient plus fascistes que les fascistes. Bref, le fascisme au juste c'est quoi ? Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Comme nous a expliqué notre invité, le sociologue Hugo Paglietta, le mot fascisme c'est le signe de l'abjection en politique. Pratique pour qui veut accuser son adversaire du pire. Et du coup, un peu tout et n'importe quoi devient fasciste. Hugo Paglietta a écrit un livre, « La possibilité du fascisme ». Et en l'interrogeant, on a voulu remonter à l'essence du fascisme, son origine historique, en Italie, et aussi sa présence dans notre histoire française. Et comme d'habitude, on commence avec une archive, le défilé des troupes fascistes de Mussolini, en Italie.
Réunis devant les ruines de la Rome antique, 10 000 membres de la milice fasciste célèbrent le 15e anniversaire de la fondation de leur légion. Puis ils défilent au nouveau pas de parade, dit le pas romain.
Dans le sens commun, fascisme renvoie en général à l'idée de dictature, de méthode donc de gouvernement dictatorial, de méthode de terreur, etc. Ou plus globalement à la violence politique. Et d'emblée, c'est pas satisfaisant parce que historiquement, les fascistes ou les mouvements fascistes sont évidemment pas les seuls à avoir usé de méthodes de terreur. Et il y a toute une série de dictatures au 19e, au 20e siècle qui sont des dictatures, à l'évidence, mais qui ne sont pas des dictatures fascistes. Aujourd'hui, je sais pas, la dictature en Chine, en Corée du Nord, sont des dictatures à l'évidence, mais ne sont pas des dictatures que l'on peut qualifier de fascistes. Et le fait de les qualifier de fascistes n'apporterait aucun élément de compréhension à ces dictatures. Je devais résumer mon idée là-dessus, je dirais que le fascisme, de ce point de vue, c'est une idéologie, un projet de régénération ou de renaissance nationale ou civilisationnelle par le moyen d'une purification ethno-raciale et politique. Bon, il faut purifier la nation des éléments qui lui seraient fondamentalement étrangers, qui l'empêcheraient d'être elle-même, en quelque sorte, d'être fidèle à son essence, à sa nature profonde, à son identité ou ses racines profondes. Bon. Et il faudrait aussi la purger des éléments qui la divisent, l'empêchent d'être unanime, d'être unie. Donc ça, c'est, je crois, le cœur de mon point de vue du projet fasciste, un projet de régénération par purification. Je précise que tous les projets de renaissance nationale sont pas nécessairement fascistes. On peut avoir des projets de renaissance nationale, par exemple, si vous voulez, la révolution cubaine, en quelque sorte, par exemple, est fondée sur un projet de renaissance nationale par la libération vis-à-vis de l'impérialisme états-unien, qui était très puissant et qui contrôlait l'essentiel des ressources de l'île. Toutes les formes de libération anticoloniale ont été des projets de renaissance nationale. Bon, et donc, ils ne sont pas à proprement parler fascistes, puisqu'il s'agit de se libérer de l'emprise d'un pouvoir colonial, etc. Bon. Là, la particularité du projet fasciste, c'est qu'on prétend que pour qu'il y ait renaissance nationale, il faut que la nation se purifie de ses ennemis, de ceux qui sont halogènes, les étrangers, dans une définition en général très extensive de qui est étranger, pas simplement les étrangers au sens juridique, mais même y compris ceux qui seraient étrangers en quelque sorte presque par nature à la civilisation française ou européenne, donc bon, en général les immigrés et les descendants d'immigrés non européens, bon, pour ce qui est du fascisme d'aujourd'hui. Je suis un peu long, mais si on prend les mouvements fascistes, ce qui me semble être leur particularité, c'est leur stratégie. Je dirais que le cœur de la stratégie, surtout fasciste, c'est de jouer sur l'idée qu'ils sont à la fois une révolte et un rempart, à la fois une subversion de l'ordre, et à la fois une manière de sauver l'ordre ou de restaurer l'ordre qui serait menacé. Donc c'est à la fois, il faut subvertir les choses et apporter un ordre nouveau, c'est une expression qui est souvent utilisée par les fascistes, et en même temps, cet ordre nouveau doit être une manière de restaurer la loi et l'ordre, la sécurité, etc. Donc c'est des fois des mouvements à la fois réactionnaires et ultra-conservateurs, et en même temps qui prétendent à une forme de révolution. Bon, et c'est ça, je dirais que la stratégie fasciste, c'est ce cocktail-là.
Thank you.
une idée assez curieuse qui s'est développée parmi pas mal d'historiens mainstream français, qui est que finalement, en quelque sorte, le fascisme se serait arrêté à la frontière comme le nuage de Tchernobyl. Idée assez curieuse parce que, de manière assez indéniable, ont existé dans les années 20 et 30 en France des mouvements de masse qui ne se réclamaient souvent pas explicitement du fascisme parce que le fascisme était un mouvement considéré comme italien. Et donc pour des nationalistes français, dire qu'on se réclame d'un mouvement étranger, c'est pas forcément très vendeur. Mais par ailleurs, pouvait toucher des fonds de l'État fasciste italien, comme ça a été le cas pour Jacques Doriot, pour son mouvement Le Parti Populaire Français, quand il est quelqu'un qui a été exclu du Parti Communiste Français, qui avait été maire de Saint-Denis, qui a rompu totalement, qui est devenu extrêmement anticommuniste.
Sitôt après la guerre, nous avons confondu l'immigration nécessaire avec l'adoption des revues de tous les pays. Nous avons naturalisé de préférence les amis de Blum et de Torres, les travailleurs honnêtes.
Et qui a fondé donc le Parti Populaire Français, qui a été un parti de masse, indéniablement, avec, en tout cas au regard des critères d'aujourd'hui, quand vous rassemblez plusieurs centaines de milliers de gens dans une même organisation, bon, vous êtes a priori un parti de masse.
Le Parti Populaire Français a proposé une règle fondamentale, la priorité absolue du travail pour les Français. Les étrangers ne feraient en France que ce que les Français ne peuvent ou ne veulent faire.
Par ailleurs, il y a la question du régime de Vichy, qui est évidemment dans des conditions tout à fait particulières, sans qu'il soit le produit d'une victoire électorale ou d'une coalition, comme ça a été le cas en Italie ou en Allemagne, qui a permis aux fascistes d'arriver au pouvoir par la voie légale. Hein. En France, c'est tout à fait particulier, c'est le produit d'une défaite militaire. Bon. Mais après, derrière, il y a un débat historiographique, c'est-à-dire que est-ce que le fascisme, c'est simplement une sorte de fascisme italien des années 20 et on devrait réserver en quelque sorte le terme de fascisme à ça, ou est-ce que c'est quelque chose de plus large dans lequel on peut distinguer des variétés ? Ce qui fait que certains ont parlé de fascisme clérical, des fascismes dans lesquels la dimension religieuse, bon, ici dans l'Europe de l'entre-deux guerres, généralement la catholique, en Espagne, au Portugal par exemple, des fascismes dans lesquels l'élément, on va dire, plébéien et de dynamique, de rue, etc., était moins fort que dans d'autres, par exemple justement dans le salazarisme portugais, où on a pu parler d'un fascisme par en haut. Ce qui pour certains historiens serait une aberration parce que le fascisme comporte nécessairement une dynamique par en bas aussi. Bon. Donc moi je suis plutôt sur cette ligne-là, que le fascisme est quelque chose de très protéiforme, qui s'adapte aux contextes nationaux, aux contextes historiques, il est capable d'évoluer, de mettre davantage l'accent sur la respectabilité plutôt que sur la violence, etc. Mais que ce qui est important, c'est d'aller voir le cœur du projet politique, idéologique.
Vos affiches, par leur graphisme, par leur slogan, ressemble à celle du MSI des néofascistes italiens.
Jean-Marie Le Pen, interrogé en 1972 sur le choix du symbole du Front National, la flamme bleu-blanc-rouge.
Nous avons utilisé cette flamme tricolore parce qu'elle nous paraît la plus jolie qu'il y avait sur le marché graphique, si vous voulez. Et quant au slogan qui a peut-être été utilisé par le MSI et que nous utilisons, il correspond peut-être à une identité de situation et de danger. Mais je puis vous dire personnellement que je n'ai aucun contact avec le MSI italien, encore que je ne vois pas leur action avec antipathie.
Le RN est issu du FN qui a été créé en 72 par l'essentiel des fascistes français de l'époque. Alors il y avait les milieux de l'Algérie française, OAS, il y avait les milieux issus du régime de Vichy ou du collaborationnisme, y compris de gens qui avaient été membres de milices SS, de la milice, etc. Il y avait les milieux catholiques intégristes. Bon voilà, c'était une entreprise d'unification et de fusion de différents courant de l'extrême droite. Donc bon, sur le plan généalogique, et je pense aussi sur le plan idéologique, il y a d'évidents parallèles entre le fascisme historique et l'extrême droite contemporaine. D'abord, une grande partie du succès du RN continue de reposer, quand on regarde les motivations du vote, sur l'idée qu'il faut faire quelque chose contre l'immigration, contre les immigrés. Quand les enquêtes sociologiques montrent aussi que c'est ça qui en premier lieu fait la force idéologique et politique du RN. Ou du FN antérieurement. Et bon, globalement, ça, l'ensemble de la vision, de la conception du monde du FN repose sur le clivage national-étranger, avec, comme je le disais tout à l'heure, une vision de l'étranger qui est très vaste, quoi. Bon, l'islam, par exemple, est étranger à la France, quoi. Les musulmans, donc, qu'ils soient français ou non, sont fondamentalement considérés comme étrangers à la France.
Marine Le Pen, quelques jours après les attentats perpétrés par Mohamed Merah à Toulouse et Montauban en 2012.
Combien de Mohamed Merah dans les avions, les bateaux, qui chaque jour arrivent en France remplis d'immigrés? Combien de Mohamed Merah dans les 300 clandestins qui chaque jour arrivent en Grèce via la Turquie, première étape de leur odyssée européenne?
Le fascisme répond à une crise effectivement du capitalisme, pas simplement une crise économique et même pas principalement une crise économique, même si c'est un peu le, ça reste en arrière-fond parce que ça crée toute une série de frustrations dans la population, de sentiments de dégradation fondés sur des éléments réels, hein, de dégradation objective, des conditions de travail, des conditions d'existence, etc. Mais l'élément central, c'est effectivement la crise d'hégémonie, ou ce que c'est un terme que je reprends de Gramsci. L'idée que la classe dominante a de plus en plus de mal à obtenir en quelque sorte le consentement de la population à ce qu'elle fait, aux politiques qu'elle mène, etc. Bon, qu'elle est de plus en plus contestée et que ses représentants politiques en particulier sont de plus en plus contestés. Si on prend les élections précédentes, on avait très manifestement les deux grands partis qui avaient gouverné pendant 40 ans, le Parti Socialiste et bon, la droite gaulliste ou issue du gaullisme, RPR puis UMP puis LR, qui représentaient plus que, je crois, 15% de l'électorat alors qu'ils avaient représenté jusqu'à 60, entre 60 et 70% quelques années auparavant, et que c'était ça, la stabilisation politique en France, elle reposait autour de ces deux grands partis.
C'est des gens qui vivent dans un autre monde. Ils ne vivent pas les problèmes qu'ont les Français. Je crois qu'ils ne s'en rendent peut-être pas assez compte. Et maintenant, bon, que ça leur serve de leçon et qu'ils regardent, c'est tout.
Vous votez pour qui?
Ben, c'est suivant. Je vote opportuniste. Le Pen.
Et avant?
Ben, avant, j'ai voté Mitterrand.
J'ai fait la fête. On était avec des copains qui avaient mon âge, on avait 20 ans et on croyait en un avenir rose. Et aujourd'hui, c'est j'ai compris. Maintenant, ma place est ici au Front National. J'ai été déçue, abusée, trahie par.
Le taux d'abstention également, évidemment, hein, qui sont croissants et explosifs dans à peu près tous les pays. Marque le fait qu'il y a une crise de représentation politique, une crise du lien entre représentants et représentés. L'affaiblissement aussi de toutes les organisations de la société civile et des organisations politiques. Hein. Genre le RPR, il y a 30 ans, était une organisation de masse avec des centaines de milliers d'adhérents. Le Parti Socialiste aussi, le Parti Communiste aussi. Bon. Il n'y a plus d'organisations politiques de masse en France. Alors, bon, sauf si on considère que cliquer sur un truc et donner 3 euros, c'est bon, mais c'est pas comparable avec ce qu'était l'adhésion à une organisation politique il y a 30 ans. Bon, les syndicats sont affaiblis, les organisations de la société civile sont là encore assez faibles, associatives, etc. Donc y a, si vous voulez, les médiations entre le pouvoir politique et les citoyens sont très affaiblies. Bon. Donc c'est tout ça en quelque sorte la crise d'hégémonie. Et dans ce contexte-là de déclin des grandes organisations qui des grands partis institutionnels, des grands partis de gouvernement, effectivement l'appel ni droite ni gauche, l'appel à supplanter tout ce vieux monde politique, tout ce jeu politique traditionnel peut porter dans la population. Et donc, si, en quelque sorte, selon les pays, hein, mais si cet appel ni droite ni gauche à transcender les clivages et à développer une alternative autour de la nation qui va nous sauver, etc., et bon, et qu'il faut sauver, et qui va nous sauver, etc., bon, cet appel peut prendre si elle trouve des politiciens suffisamment habiles, des mouvements suffisamment intelligents pour capter, en quelque sorte, ce désarroi d'une grande partie de la population vis-à-vis des grands partis traditionnels. Et il y a, je crois... également la crise de l'alternative, donc la crise de la gauche ou des gauches, sous ceux qui sont traditionnellement perçus comme portant un projet contre-hégémonique, un projet d'alternative au, alors soit au néolibéralisme ou dans une version plus, plus radicale, dans une alternative au capitalisme, etc. Bon, donc qui, la gauche qui subit une crise, je le disais, historique, du fait du déclin des deux grandes forces hein, qui ont organisé la gauche pendant plus d'un siècle, enfin à peu près un siècle, le Parti Socialiste et antérieurement la SFIO, etc. Bon, et le Parti Communiste Français. Bon. On a du mal, quand on regarde, c'est presque une histoire oubliée maintenant, mais si on prend la fin des années 70, c'est à peu près 40 ans, on a même du mal à concevoir ce qu'a pu être l'ancrage de la gauche dans ce pays, et l'ancrage réel, je veux dire, vous alliez dans une usine comme Renault-Billancourt, où il y avait des dizaines de milliers d'ouvriers à la porte de Paris, je veux dire, à côté de Paris, et vous aviez des milliers de militants communistes dans cette usine, des gens qui adhéraient, qui votaient au congrès du Parti communiste, qui militaient pour le Parti communiste. Bon, tout ce monde s'est effondré, en quelques années d'ailleurs, hein, de manière, bon, et ce qui a laissé en quelque sorte les classes populaires totalement orphelines d'une représentation politique, d'outil politique pour défendre leurs intérêts en tant que classe, quoi. Donc c'est ça qui s'est passé du côté, on va dire, de ce qui pouvait apparaître comme une alternative pour les classes populaires à la droite, mais plus profondément au néolibéralisme, au capitalisme, etc. Bon. Et alors, il y a d'autres éléments, c'est que empêtrés dans ce que j'appelais la crise d'hégémonie, les partis dominants n'ont pas cessé, au cours des 30 à 40 dernières années, de jouer sur le terrain de l'extrême droite, et donc à banaliser, à légitimer des thématiques et des propositions, y compris de l'extrême droite.
Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français.
La gauche républicaine, elle doit pouvoir parler d'immigration. Dire, par exemple, que aujourd'hui il faut arrêter l'immigration. Je continue de penser, laissez-moi donc une minute là-dessus, que la priorité, c'est l'assimilation de ceux qui vivent sur notre sol et le fait qu'ils aiment ce pays, sa langue, sa culture.
Moi, ça m'a toujours choqué d'entrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait, en arrivant, un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon opinion. C'est comme ça que ça commence, ce communautarisme. Voilà, je pense.
Qui sort grandi et surtout qui sort avantagé de ce type de déclaration, quoi. Tous ceux qui ont joué cette ligne-là, à gauche, en tout cas, ont fini par perdre. Parce qu'en fait, vous ne rétablissez jamais votre capacité hégémonique, votre capacité à dominer les débats, en quelque sorte, à imprimer votre marque sur le sens commun des gens, en reprenant le discours de l'adversaire. Vous serez toujours moins bon que l'adversaire sur son terrain. Et la gauche aurait plein de choses à dire sur l'insécurité. Mais il faudrait dire d'abord des choses rationnelles. Dire, par exemple, ce qu'il en est effectivement de l'évolution de la criminalité. Je sais pas, insister sur la criminalité en col blanc, qui représente en général des sommes beaucoup plus importantes que la criminalité, que la petite criminalité ou la petite délinquance. Voilà, dire des choses sur les causes de la délinquance et de la criminalité, qui, quand on regarde les études comparatives en sciences sociales, montrent c'est bien davantage la pauvreté, les inégalités qui expliquent les hauts niveaux de criminalité. Et notamment de petites délinquances. Voilà, il faudrait dire tout un tas de choses qui renvoient en partie à la question sociale, qui est le terrain sur lequel la gauche s'est construite traditionnellement, et le seul terrain sur lequel elle peut se rebâtir d'une certaine manière. Et par ailleurs, les mouvements sociaux montrent qu'il peut y avoir une aspiration. Les Gilets jaunes, le mouvement contre la loi travail, le mouvement sur les retraites, bon, qui étaient majoritaires dans l'opinion publique, hein, ces mouvements, ils étaient soutenus par l'opinion publique selon les sondages, montrent bien qu'il y a un espace pour faire ça.
En 1990, la télévision française suivit des Redskins dans le métro parisien, un mouvement d'extrême gauche en chasse contre les skinheads, qu'on désigne aussi comme des néo-nazis ou des néo-fascistes.
Nous, on est une bande de chasseurs contre le mouvement, un mouvement que tout le monde connaît parce qu'il y a une pub infernale autour de ce mouvement, c'était le mouvement skinhead. Nous, on ne supporte pas qu'il y ait de la xénophobie en France ou dans le monde, et on est contre le racisme en général. Alors ici, on est dans le métro, on commence à chasser, et si jamais on rencontre des skins, on leur rentre dedans.
Dans la mesure où le fascisme et le mot fasciste est devenu le synonyme un peu de l'abjection en politique, et y compris de la violence politique, toute forme de violence exercée pour des motifs politiques peut être qualifié de fascisme. Donc par exemple, quand les antifascistes disons se défendent ou défendent un cortège, y compris par ce qui peut apparaître comme de la violence, on va dire ah, les vrais fascistes, ce sont eux, quoi. Mais ça repose sur une vision très dépolitisée et coupée, en fait, un peu ce que je disais. C'est-à-dire que si on définit pas le fascisme par son projet politique et qu'on le définit simplement par la violence, effectivement, il y a plein de choses qui vont être fascistes, quoi. Il y a des tâches, je dirais plutôt d'autodéfense, qui n'impliquent pas d'aller évidemment agresser tel militant dans la rue tout seul. Bon, ça, c'est stupide et bon, voilà, c'est personne peut procéder comme ça. Mais par contre, prendre la mesure et prendre au sérieux la menace physique que fait peser l'extrême droite de rue, je dirais, les fascistes de rue. Sur les mouvements féministes, antiracistes, etc. Il faut se poser ce genre de questions. Et par ailleurs, le mouvement ouvrier traditionnel, et pas seulement ouvrier, d'ailleurs les mouvements féministes traditionnellement, se la sont posés. C'est pour ça que se sont constitués des services d'ordre qui visaient essentiellement à protéger les cortèges, les manifestations, d'attaques de l'extrême droite, ou y compris d'attaques de policières, ou d'agressions policières. Hein, le service d'ordre, au départ, c'est ça. C'est on va protéger nous-mêmes notre cortège. On va auto-organiser la protection de notre cortège. On va pas faire reposer notre protection sur la police. Puisque, y compris, il arrive régulièrement que la police attaque les cortèges. Donc, je pense que cette idée doit être à la fois réhabilitée et qu'on doit prendre au sérieux ce jeu davantage qu'on ne l'a fait ces derniers temps. Ces tâches, on va dire, d'autodéfense, quoi. Mais un antifascisme qui se réduirait à ça, il serait voué à perdre. Parce que... la défense, c'est pas simplement la défense physique, c'est la défense politique. Et donc, par exemple, une des tâches absolument centrales actuellement pour l'antifascisme, c'est la défense des libertés publiques tout à fait fondamentales qui sont mises en péril par le durcissement autoritaire, les politiques de durcissement autoritaire, les politiques sécuritaires. Et cette menace que le durcissement autoritaire fait peser sur les libertés publiques, c'est pas simplement des militants d'extrême gauche qui la montrent. Hein. On a vu un avocat qui était proche de Fillon et de Macron, comme François Sureau, écrire tout un livre pour dire à quel point la liberté était menacée par les politiques prétendument antiterroristes, d'ailleurs qui sont très très inefficaces vis-à-vis du terrorisme, mais qui sont très efficaces pour museler les oppositions. Hein. Il faut défendre les libertés publiques. D'organisation, de manifestation, de grève, etc., face à des initiatives qui sont essentiellement gouvernementales, qui ne viennent pas de l'extrême droite en tant que telle, même si l'extrême droite est plutôt favorable en réalité à ce type de projet. Et par ailleurs, pour l'antifascisme, il y a la nécessité, pour le coup, davantage en positif, de proposer en quelque sorte, ou pour tous ceux qui ont une fibre, on va dire, antifasciste, ou qui pensent qu'il faut... empêcher le développement, la croissance des fascistes, il faut développer une alternative. Et cette alternative, c'est pas simplement une alternative à l'extrême droite, c'est une alternative à l'extrême droite et à tous ceux qui lui pavent la voie, à tous ceux qui favorisent sa progression, donc notamment tous ceux qui banalisent les discours racistes, islamophobes ou autoritaires dans l'espace public, qui peuvent être des figures médiatiques, plus ou moins lié à l'extrême droite d'ailleurs, hein. Ça peut être Zemmour, mais ça peut être quelqu'un comme Michel Onfray. Michel Onfray, quand il dit « nous vivons dans un régime communiste et communautariste et racialiste anti-blanc, c'est-à-dire un apartheid inversé », bon, on est typiquement dans un discours d'extrême droite.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. et le roi des cons sur son trône. Je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie, ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, de feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin fermente en tonneaux. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leur Côte-du-Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à s'étarer. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dinde marron. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.